Le dos au tronc d'un pologne, comme un vieil éléphant, on en voyait de tristes et de joyeux. Deux infirmiers se précipitèrent sur un qui prétendait se masturber. Il en faudrait beaucoup, désormais, pour étonner le docteur Klein. Augustin s'assit sur le rebord de la fenêtre. C'est le matin que Klein ressemblait le plus à un faune échappé des forêts. Les oreilles, pour avoir été rougies par le vent frais, se détachaient bien du visage blanc et paraissaient plus biseautées qu'à l'ordinaire. Un homme en blouse leur apporta du café et Klein précisa en souriant qu'il ne s'agissait pas d'un fou. Pierre se demanda s'il déciderait un jour d'habiter l'hôpital. « Je ne l'ai pas beaucoup vu encore, » dit Klein. « Au moins il est tranquille. » Ici les autres fous se foutent bien qu'il ait été le professeur Alcossé. Comment est-il, quand il parle, il ne cesse de parler, il raconte bien, s'aurait fait un merveilleux conteur. En fait, il se souvient de tout sur le même plan, comme si toute sa vie ressortait, et tout ce qui ressort a la même valeur pour lui, il y attache exactement la même importance. Pierre se dit que peut-être c'était cela, l'enfer, toute chose égale. Il y avait donc des hommes qui connaissaient l'enfer avant la mort, comme d'autres le paradis avant la mort. Il rougit de cette réflexion enfantine. La mort arrête des matières et des gaz. Pourquoi y pensait-il si souvent? Tu crois qu'il est conscient parfois? Une question classique. Klein fit un geste dubitatif. Difficile à dire. D'ailleurs, il ne déraille pas toujours. Les idées sont dans sa tête comme des carreaux en caisse, clairs à part, obscurs ensemble. Tu lui parles, si je devais leur parler, sourit Klein, se reprenant un peu quand il s'agite. Le son de ma voix lui fait quelque chose, comme à un animal, mais je l'écoute beaucoup. C'est vrai, il peut lui arriver de dire deux, trois phrases extrêmement sensées avec l'air d'être dans son salon. Ça ne dure jamais. Hier il m'a dit, j'ai plus aimé le vice dans l'amour que l'amour. Et je préfère la beauté cernée des prostituées à la fraîcheur des jeunes filles. Immédiatement après, un tombereau de grossièreté. Puis il a prétendu avoir détruit Babylone. Ce qui n'est pas commun, c'est qu'on dirait qu'il se juge. Il étendit la main vers un pot de scafferlati et commença de rouler une cigarette. La folie, c'est le petit enfer personnel qui remonte. Toujours l'enfer, pensa Pierre. Qu'y a-t-il ce matin avec l'enfer? Je dis l'enfer comme l'enfer des bibliothèques. Le sien n'est pas mal, exotique mais attachant. Une femme hurla dans la cour et Pierre se pencha par la fenêtre. Ce n'est rien, dit Klein. Les femmes, c'est plus terrible, je ne sais pourquoi. La déraison est plus forte. Elles vont à la folie comme des bêtes à l'abattoir. L'habitude. Augustin voulut sortir. Klein le raccompagna jusqu'au perron. Il sera bien chez moi, tu sais que je les traite très bien. On entendait une conversation d'infirmier, à deux portes de là, c'est le père Philibert qui est venu porter l'extrême onction. Il a une méthode infaillible pour ceux qui sont agités. Il leur dit à l'oreille, calmez-vous, ne vous en faites pas, faites-le mort et tout ira bien. Bussy, on le voyait de loin sur la plaine. Un gros bosquet en forme d'île adossé à un petit hameau dont les cheminées fumaient. Il ne restait déjà plus grand monde au hameau à cette époque, et le petit bar où l'on servait la berluche ne se remplissait qu'à la moisson, quand les journaliers venaient du sud, des marais du Bois Chaud ou même de Moulins. Le reste du temps les fers claquant sur la route sonnaient comme un « qui vive » dans une ville à l'abandon. Le premier soir qu'il y revint, Augustin Pierre se fit conduire tout droit chez lui. La nuit d'octobre était bien claire. Il se fit une montagne de coussins contre un mur du salon vert, et se juchant tout en haut, fuma sa pipe dans l'ombre. La maison craquait doucement. On y entendait des pas. Vers 2 ou 3 heures, incapable de s'endormir, il partit faire le tour du parc. La lune faisait briller la serre du potager. Par contre, le temple de Cnide, au fond du bois, était à peine visible entre les ifs. Les taillis bruissaient du mouvement des animaux. Nathanael avait dit à Pierre que tout le gibier des alentours, pressé par les chasseurs, se réfugiait à Bussy chaque année en cette saison. Des bus s'envolèrent vers la plaine. Du bord de l'île, tournant ses regards vers le centre, il lui sembla voir un chevreuil dans la prairie devant la maison, mais il ne savait pas distinguer un chevreuil d'un cerf ou d'une biche. « C'est mon royaume ?» pensa-t-il comme un enfant, « Mon royaume, Il murmurait ces mots au rythme de son pas. « Me voilà un peu comme le vieux Bussy, c'est fou ce qu'on peut faire de moi. » Il sortit du parc et prit le chemin du dehors qui longeait la plaine. Il aurait bien voulu chanter une chanson, mais les airs de salle de garde ne s'accordaient pas au paysage, et l'ouverture de la force du destin non plus. Il entendit quelques aboiements du côté de Dunn. Au-delà, Marie-Antoinette devait dormir. Il était seul. Au milieu du rucher peu de ruches, 8 ou 10, et du miel de pin un peu épais, il ralluma sa pipe. La lueur de la mèche d'Amadou lui parut déplacée dans cette campagne endormie. C'est mon royaume. Il rentra chez lui sur ses coussins pour se laisser gagner par le sommeil. Au matin, le soleil étant haut depuis longtemps, un bruit d'attelage le fit dégringoler du moelleux édifice. Il s'en fut à la porte derrière laquelle Marie-Antoinette Grigoriev riait déjà. Dieu qu'il était étonnant, avec ses vêtements noirs, sa barbe naissante et ses grands yeux verts qui lui mangeaient le visage. Il eut du plaisir à la voir et sourit. Elle remarqua que 2 fossettes enfantines creusaient ses joues, au lieu de la laisser entrer.